Ami, Damas, RFI.
RFI, il est 13h30 ici à Paris, midi et demi en temps universel, place à Afrique Midi avec vous Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour Simon Bourtembourg, bonjour à toutes et à tous. Au Mali, le bureau du vérificateur général chargé de contrôler les dépenses publiques pointe des malversations dans la gestion d'un organisme gouvernemental. Selon son rapport, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga aurait directement bénéficié de certaines d'entre elles. Il ne reste pratiquement plus rien du marché de Katamanto à Accra. Il a brûlé cette nuit. C'est le plus grand marché de vêtements de seconde main du Ghana. Au moins une vingtaine de civils ont été tués dans de nouvelles attaques des ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Elles ont eu lieu, ces attaques, dans le territoire de Lubero, à plus de 300 km au nord de Goma. Pourquoi les ADF continuent-ils de semer la terreur en RDC alors que de l'autre côté de la frontière, le président Museveni affirmait dans son adresse du Nouvel An qu'ils avaient été détruits en Ouganda ? Stewart Muindo, analyste sécuritaire et militant de la Lucha, est l'invité d'Afrique Midi. Au Mali, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga dans le collimateur du bureau du vérificateur général. Dans un rapport publié lundi, cette institution chargée de contrôler les dépenses publiques pointe des malversations au sein de l'AGEFO, l'agence placée sous la tutelle de la primature qui promeut l'accès aux services d'information et de télécommunication. Des malversations portant sur des montants conséquents que l'ancien chef du gouvernement Choguel Maïga aurait couvert, David Baché, ou dont il aurait même, pour certaines, directement bénéficié.
Oui, le vérificateur relève des dépenses indues au profit du personnel, abonnement téléphonique notamment pour près de 13 millions de francs CFA, le non-reversement de redevances destinées à la télévision d'État, au RTM, plus de 92 millions de francs CFA, ou encore des équipements manquants, Wi-Fi, ordinateurs, pour près de 15 millions de francs CFA, dans des écoles où ce matériel était censé être à disposition. Surtout, le vérificateur général pointe des irrégularités ayant directement bénéficié à Choguel Maïga, deux déplacements pour des cérémonies à Konobougou et Dalala en décembre 2023 ont ainsi donné lieu au versement de frais de missions indus pour plus de 12 millions de francs CFA qui ont financé l'importante délégation personnelle de Choguel Maïga. Ces deux déplacements ont également donné lieu au versement de près de 35 millions de francs CFA au titre des dépenses de souveraineté du Premier ministre, des dépenses non prévues et indues selon le vérificateur général.
Alors Choguel Maïga est-il convoqué, comme cela dit ce jeudi, par la Cour suprême?
Alors la rumeur a enflé sur les réseaux sociaux, mais la réponse est non. Cette fausse information est démentie à RFI par l'entourage de l'ancien Premier ministre de transition et par plusieurs sources judiciaires maliennes. En revanche, le bureau du vérificateur général a bien transmis ses dénonciations à la Cour suprême. Des suites sont donc à prévoir. Ce dossier potentiellement explosif relève de la lutte contre la corruption. Il pourrait aussi servir de terrain de règlement de compte politique. Choguel Maïga a été limogé de la primature il y a un peu plus d'un mois après avoir étalé au grand jour ses désaccords avec les militaires au pouvoir. Son entourage crie au complot.
Au chapitre diplomatique à présent, cette nouvelle passe d'armes entre Bamako et Alger, dont les relations sont au plus bas depuis un an. Dans un communiqué diffusé hier soir, les autorités maliennes de transition ont dénoncé la persistance des actes d'ingérence de l'Algérie, également accusée de complicité avec les groupes terroristes qui déstabilisent le Mali et à qui elle a offert le gîte et le couvert, selon ce communiqué. Lundi dernier, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avait déclaré pour sa part que la solution militaire était impossible au Sahel et notamment au Mali, car tentée à plusieurs reprises par le passé et qu'elle avait échoué. Le chef de la diplomatie algérienne refusait également de qualifier les rebelles indépendantistes du Nord de terroristes. C'est le principal marché de seconde main d'Accra et du Ghana. Le marché de vêtements de Katamanto a brûlé dans la nuit. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Victor Cariou, on vous retrouve sur place. L'émotion des commerçants et des riverains est vive. Il ne reste plus aucun commerce.
Tout à fait, Nicolas. Des plus de 2000 boutiques comptent environ cette partie du marché en plein air. la plus importante. Il ne reste plus qu'un tas de cendres fumantes au milieu de ces ruines, dans un air très pollué. C'est une foule très importante de jeunes ferrailleurs qui essayent de récupérer tout ce qu'ils peuvent, comme de la tôle, pour ensuite le revendre. À côté d'eux, quelques commerçants médusés sont venus constater l'ampleur des dégâts. J'ai par exemple pu parler avec Isaac Ofouri, qui a perdu ses deux boutiques dans l'incendie. Avec sa marchandise détruite en plus, il estime la valeur de ses pertes à plus de 10 fois ce qu'il gagne en un an. Lui, comme beaucoup de commerçants ici, appelle maintenant les autorités à venir les aider. Il faut dire que le marché de Catamanto, internationalement connu comme une grande destination du commerce de vêtements de seconde main, fait vivre plusieurs dizaines de milliers de personnes et attire des clients de tout le pays. Côté bilan, aucune victime n'est à déplorer selon les pompiers. Une enquête a cependant été ouverte par les autorités pour déterminer les causes de l'incendie.
Victor Cariou, correspondant de RFI à Accra. En Côte d'Ivoire, l'opposition également a sacrifié à la tradition des vœux du nouvel an, des vœux particulièrement axés cette année sur l'élection présidentielle qui est prévue au mois d'octobre, Benoît Almeras.
Une élection juste, crédible, apaisée, transparente, inclusive, voilà les termes employés par les différents chefs de partis d'opposition. Dans son message, Tidiane Thiam a répété son souhait de faire de la politique autrement. Le chef du PDCI adresse des vœux républicains aux autorités. Il écarte tout esprit de revanche s'il est élu. Nous devrons gouverner pour tous les Ivoiriens. Simone Eyvé a de son côté salué les élections apaisées au Sénégal et au Ghana. C'est possible, dit l'ex-épouse de Laurent Gbagbo. Elle salue aussi Netumbo Nandine Détoy, première femme élue présidente de Namibie le mois dernier. Pour la patronne du MGC, le choix des Namibiens est parlant. Le chef du FPI, Pascal Affine-Guessant, souhaite, lui, que la présidentielle d'octobre soit un affrontement à la loyale projet contre bilan. Enfin, une exception, le PPACI ne formule pas de vœux pour 2025, mais le parti de Laurent Gbagbo entend réagir à l'allocution du président Alassane Ouattara la semaine prochaine. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
2025 sera également une année d'élections présidentielles au Cameroun. Ma détermination à vous servir demeure intacte, a déclaré dans ses vœux le président Paul Biya, dont le parti, le RDPC, juge une nouvelle candidature naturelle. Les principaux leaders de l'opposition se sont montrés beaucoup plus explicites dans leurs messages de nouvelle année respectifs, Polycarpe Samba.
Cabral Libi, le président du PCRN, a été le premier à donner le ton pour ce député de l'opposition. Le plus grand espoir est que l'année 2024, qui vient de s'achever, emporte avec elle, je cite, le pouvoir en place qui a plongé le Cameroun dans une misère et une pauvreté sans précédent. Fin de citation. Ils estiment que c'est pas assez, ils veulent nous enterrer vivants, a-t-il asséné, faisant référence aux dirigeants actuels et leurs appels à un nouveau mandat du président Paul Biya. Présenté comme le principal leader de l'opposition, Maurice Kamto du MRC a lui aussi dressé un tableau des plus sombres de la gouvernance du régime actuel. Mais il aura surtout mis un point d'honneur à lever tout équivoque sur sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. « Je serai candidat », a-t-il affirmé, voulant ainsi rassurer sur la recevabilité de la dite candidature, là où certains commentateurs avancent qu'il aura le plus grand mal à être au départ de cette présidentielle du fait du boycott en 2020 par le MRC des dernières élections municipales et législatives. Enfin, Joshua aussi du SDF a lui aussi dit tous les espoirs que charrie cette année 2025 en vue du changement. Il a lancé l'idée d'un nouveau front, le Front progressiste. Ce dernier, qui se propose de rassembler partis politiques et organisations syndicales, se donne entre autres défi de régler s'il venait accéder au pouvoir en 100 jours les principales crises sécuritaires qui secouent le pays. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Au moins une vingtaine de civils ont été tués dans de nouvelles attaques des rebelles ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Elles ont eu lieu dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, à plus de 300 km au nord de Goma, héritier Baraka.
Ces incursions ont eu lieu dans plusieurs villages de la chefferie de Bapere et Bassoa en territoire de Lubero, les journées du 30 et 31 décembre 2024 selon la société civile locale. Les sources concordantes affirment qu'au moins une vingtaine de civils ont été massacrés. Il s'agit principalement des villageois tués à la machette. Les villages essentiellement touchés sont Kaheku où 15 civils ont été tués, Bilunde avec 8 victimes et 6 à Vinjo. Plusieurs villages ont été incendiés par les ADF lors de ces attaques. Kaindou Nzanzu Bonane, chef de la chefferie de Bassoa, affirme que les bilans pourraient s'alourdir vu que plusieurs autres villages touchés par ces attaques sont inaccessibles. La communication dans la région est quasiment impossible. La connexion téléphonique est inexistante dans la région. Une source sécuritaire dans la zone qui confirme ces nouvelles attaques indique que l'armée a déployé des renforts pour stopper ces attaques dans la zone. Ces attaques ont conduit à de nouveaux afflux de déplacés selon le chef de la chefferie de Bapere. Depuis juillet 2024, les ADF ont intensifié des attaques dans les territoires de Lubero, une zone qui n'avait jamais été touchée par ces rebelles alliés à l'État islamique. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, Stewart Mouindo, analyste sécuritaire et militant de la Lucha, est notre invité. À Kinshasa, le président Tshisekedi a profité de la nouvelle année pour annoncer une mesure collective de grâce. Elle concernera uniquement certaines catégories de détenus et on ne sait pas encore si les grandes figures de l'opposition comme Jean-Marc Kabound, Jacques Ndala ou Seth Kikuni pourront en profiter, Passion Ligodi.
La liste de personnes graciées n'est en fait pas encore connue. Selon nos informations, elle sera établie par une commission mise en place pour examiner chaque dossier et éviter toute irrégularité. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, promet un processus rapide et transparent. Les libérations, dit-il, pourront intervenir d'ici à un mois. L'ordonnance signée dans la nuit du 31 décembre permet en tout cas à cette commission d'offrir des remises, des réductions et même des commutations de peine. Les condamnés à moins de 5 ans de prison pourront par exemple voir leur peine totalement remise. Ceux à plus de 5 ans pourront obtenir une réduction de 5 ans. La peine de mort pourra être commuée en servitude pénale à perpétuité et les peines à perpétuité réduites à 20 ans. Ces mesures ne s'appliqueront pas à tout le monde, sont exclus entre autres les condamnés pour violences sexuelles, détournement de fonds publics ou atteinte à la sûreté de l'État. Les avocats de Jean-Marc Kabound, Jacques Ndala ou encore Seth Kikuni se disent en tout cas optimistes. Ils estiment que leurs clients répondent aux critères. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Au Burundi, la candidature aux élections législatives d'Agathon Rwasa, l'un des principaux opposants, a été rejetée par la Commission électorale nationale indépendante. L'ancien président du Congrès national pour la liberté, le CNL, dont il a été évincé au mois de mars, n'est pas le seul dont la candidature a été refusée. Paul Lorgerie, c'est un coup dur pour l'opposition.
Oui, en effet Nicolas, en raison de son éviction du CNL en mars, Agathon Rwasa, qui était arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2020, s'est présenté aux élections législatives au sein d'une coalition de quatre partis d'opposition nommée Un Burundi pour tous. Deux autres membres proches de M. Rwasa et qui ont rejoint la coalition ont été mis hors jeu par l'organe de gestion des élections, Euphrasie Mutanzinka et Anatole Karorero. Selon la CENI, leur participation aux législatives était en inadéquation avec le code électoral et la loi sur les partis. Je m'explique. Les trois membres de l'opposition qui siègent encore à l'Assemblée nationale sous la casquette du CNL, parti suspendu en juin 2023, ne peuvent a priori pas se présenter sous une autre étiquette tant qu'ils n'en ont pas démissionné. C'est ce qu'ils ont pourtant fait en créant cette coalition. Qui plus est, en décembre, le président burundais, Evariste Ndayishimiye, avait promulgué un décret rétrécissant les possibilités de candidature. Un simple adhérent ayant quitté son parti il y a moins d'un an ne peut désormais plus se présenter. Une période allongée à 2 ans pour un dirigeant. Une mesure qui, selon un analyste cité par l'AFP, semble avoir été taillée sur mesure pour Agathon Rwasa.
14h43 à Bujumbura.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, les sports du football, le tout-puissant Mazembe à l'entraînement à l'avant-veille de son match décisif face aux Young Africans. Et la tradition des étrennes à Madagascar, ce sont les anciens qui sont gâtés. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce jeudi, un nouveau drame de l'émigration clandestine au large de la Tunisie. Deux bateaux qui tentaient de rallier les côtes européennes ont fait naufrage au large de l'archipel des Kerkena. 27 corps ont été repêchés, 83 autres personnes ont pu être secourues, toutes originaires d'Afrique subsaharienne. Des femmes et des enfants comptent parmi les victimes. Dans l'actualité des sports du football, est le tout-puissant Mazembe qui se retrouve en mode commando. Mal embarqué en phase de groupe de la Ligue des Champions, les Corbeaux vont jouer leur survie dans la compétition après-demain sur le terrain de Young Africans. Alors avant de prendre la direction de la Tanzanie, le staff du tout-puissant a décidé de mettre le paquet et de redoubler d'efforts à l'entraînement. Le jour de l'an, hier, a été particulièrement intense. Reportage Pascal Mwangala.
Notre fête est sur le terrain. On continue avec le travail. La fête, c'est pour ceux qui se trouvent à la maison.
C'était les mots de Robert Kidiaba, préparateur des gardiens, début avant la séance d'entraînement de ce 1er janvier 2025. Une manière pour le staff technique de booster le moral des joueurs la veille du voyage de Dar es Salaam en marge du match retour contre Young Africa. Pour le jeune attaquant congolais Oscar Kabwit, s'entraîner même le jour de la fête de la bonne année été la chose la mieux à faire.
Être incarné un jour si spécial qu'on devrait être avec nos familles, forcément, c'est bon. On prend conscience de l'importance du match qu'on doit jouer à Versailles. Un match très, très, très décisif. Un travail dur pour aller arracher la victoire. Nous sommes tous dans un état d'esprit positif, prêts pour aller chercher une victoire en Tanzanie.
Le Corbeau espère gagner samedi pour se relancer dans la course vers la qualification à la prochaine étape de la Ligue des Champions. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
Ce début d'année est la période des étrennes. À Madagascar, la tradition du Soulumbu Diaïkou se poursuit. Les jeunes rendent visite à leurs aînés pour leur adresser leurs vœux et leur offrir un cadeau. En échange, ces derniers leur apportent une bénédiction, un moment de partage qui est l'occasion de réunir les familles. Reportage Guilhem Fabré.
Témoigner du respect aux aînés, c'est le sens du Soulumbu Diaïkou, une tradition malgache très ancienne que Ensu, 30 ans, tient à perpétuer en rendant visite à l'un de ses oncles.
On vient visiter les parents ou les ascendants pour leur offrir ce qu'on a de meilleur. De base, c'est le meilleur de la production, que ce soit le bétail ou les produits du poulailler. Plus tard, ça a été remplacé par de l'argent. Tout ça, ce n'est que la forme. Le fond est vraiment d'honorer les parents, vraiment le respect des plus âgés. C'est quelque chose qui nous tient à cœur en tant que malgache, parce que ça fait partie de notre culture.
En échange de leurs vœux, les aînés demandent à Dieu ou aux ancêtres qu'ils accordent leur bénédiction aux plus jeunes. C'est aussi l'occasion de transmettre l'histoire de la famille et d'apaiser les tensions. Rakutu, 70 ans, l'oncle d'Ensu, accorde une grande importance à ce partage entre générations.
Lors de cette visite, on peut régler les mésententes, quel que soit leur degré, mais ça aussi traduit les liens familiales, les malgaches, pensent qu'on est toujours liés, les parents, les grands-parents et même les aïeux. En fait, cela traduit bien cette unité.
En plus d'entretenir la paix dans les familles, la tradition du Soulumbu Diaïkou doit favoriser la cohésion de toute la société. Guillaume Fabriant, Tananarive, RFI.
Les étrennes aussi en Côte d'Ivoire, où des groupes d'enfants vêtus de leurs habits de fête et sourires aux lèvres parcouraient hier les quartiers pour souhaiter la bonne année. En échange de leurs vœux, quelques pièces ou quelques billets. Mais certaines évolutions de cette tradition inspirent aujourd'hui quelques réserves. À Abidjan, le reportage d'Abdoulaziz Diallo.
Ça fait bonne année, l'argent, il faut gagner les 2000, mais 4000.
Dans un supermarché du quartier chic de Cocody, les enfants, souvent en petits groupes, investissent les lieux pour dépenser leur butin.
Je suis venue avec mes camarades. On nous fait plaisir. On a acheté les spaghettis, les tomates pâtes, et puis le lait.
Pour certains adultes, cette coutume appelée « Bonne année l'argent » incarne un héritage culturel à préserver. Mais elle nécessite un encadrement strict.
Il y a beaucoup de dangers en allant vers les inconnus. Ces enfants-là, on doit les encadrer, les contrôler, en les interdisant d'aller vers les inconnus. Voilà, sinon l'objectif est bon.
Toutefois, pour le sociologue Dr Bini Roland, la symbolique de cette tradition semble s'être diluée au fil des années.
Aujourd'hui, cette pratique est devenue un moyen de gagner de l'argent. Quand vous prenez les enfants qui se promènent dans la rue toute la journée pour récolter, très souvent ils font les points avec leurs parents.
Une pratique qui perpétue la joie des fêtes, mais qui n'est pas sans risque. Certains enfants, s'éloignant trop de leur quartier, finissent parfois par s'égarer. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Midi 48 à Abidjan, 13h48 à Paris. Simon Bourtembourg, les grands titres de ce jeudi 2 janvier.
Le FBI qui enquête sur les liens terroristes de l'attaque à la voiture bélier de la Nouvelle-Orléans. Lors des festivités du Nouvel An, une voiture a foncé dans la foule dans le quartier touristique français de la ville de Louisiane. La chef de la police locale qualifie l'assaillant de terroriste. Il a été tué, mais son profil interroge. L'ancien militaire de l'armée de terre avait prêté allégeance à l'organisation État islamique dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. À la une également, le président coréen déchu, retranché dans sa résidence. Yung Suk-yeol promet de se battre jusqu'à la fin, mais il pourrait être arrêté dans les prochaines heures. Un mandat d'arrêt contre le président a été lancé par les autorités qui cherchent à l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Ouvrir une nouvelle page dans les relations syro-saoudiennes, voilà le sens de la visite du ministre syrien des Affaires étrangères à Riyad. Un premier déplacement pour lui à l'étranger, et ce alors qu'en Syrie, selon une ONG citée par l'agence Sahana, les nouvelles autorités lancent une opération à grande échelle. Saint-Michel à Homs, dans les quartiers de la minorité alaouite dont est issu le clan Assad. Et puis, en France, le projet de loi d'urgence Mayotte ne sera présenté en Conseil des ministres que la semaine prochaine. Il s'agit de prendre le temps de continuer la concertation avec les élus de l'archipel. Matignon assure que cela n'aura pas d'impact sur l'examen du texte au Parlement qui reprend son activité le 13 janvier. De nouvelles attaques attribuées aux rebelles de l'AFD sont donc signalées dans l'est de la République démocratique du Congo, et ce au moment même où de l'autre côté de la frontière, en Ouganda, dont ils sont originaires, le président Museveni assure qu'ils sont désormais neutralisés. Alors comment expliquer les atrocités qui persistent en territoire congolais ? L'analyse sécuritaire de Stewart Muindo, militant de l'ONG citoyenne Lucha, il est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Stewart Muindo.
Bonjour monsieur le journaliste.
Que vous inspirent les déclarations du président ougandais selon lesquelles le groupe ADF a été détruit en Ouganda ?
Alors, ces déclarations, je crois, elles montrent plus ou moins le contraste entre la situation sécuritaire en Ouganda et au Congo. Elles montrent surtout que les forces ougandaises qui se sont déployées au Congo ont considérablement contribué à sécuriser l'Ouganda, alors que pour le Congo, on ne peut pas le dire ainsi, parce que le déploiement de l'armée ougandaise a juste repoussé les ADF dans les fonds du Congo, ce qui a contribué à la persistance des massacres des civils, alors que de l'autre côté de la frontière, notamment en Ouganda, on a l'impression que c'est plus ou moins calme. Donc je pense que cette déclaration, comparée aux faits qui se produisent au Congo, montre à quel point les opérations militaires menées par l'armée ougandaise sont en réalité pour le bien de la protection de population ougandaise et non de population congolaise qui continue à être massacrée par les ADF.
Oui, car les attaques des rebelles sont quasi quotidiennes au nord Kivu notamment. Et donc pour vous, ça veut dire que ces rebelles se sont enfoncés en territoire congolais, loin de la frontière.
C'est exactement ce qu'on constate, parce qu'il y a des entités, notamment la chefferie de Bapere en territoire de Lubero, qui jadis n'avaient jamais été attaquées. Donc ça veut dire que les ADF qui étaient au pourtour de la frontière entre le Congo et l'Ouganda n'ont pas été neutralisés par l'armée ougandaise. Ils ont juste été repoussés au fond du Congo et c'est là où se déroulent des massacres des civils pour l'instant.
Et dans ces zones, l'opération conjointe lancée par Kampala et Kinshasa n'est pas active ?
Alors, elle n'est en tout cas pas active jusqu'à couvrir l'étendue de la surface où l'effluence des ADF s'étend. Donc, on constate que l'armée ougandaise se déploie essentiellement là où il y a les intérêts ougandais, soit autour de la frontière, soit autour de projets routiers qui sont menés par l'Ouganda, notamment la route Kasindi-Beni-Butembo. Et c'est exactement ça qui est problématique, qui montre qu'en réalité, les forces ougandaises ne sont pas là pour neutraliser les ADF ou pour protéger les populations congolaises, mais c'est plutôt pour protéger l'Ouganda et ses intérêts à partir du territoire congolais.
Quelle est la stratégie aujourd'hui, selon vous, des ADF ? Quel est leur objectif final ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors, jusque-là, ils communiquent très peu sur l'objectif de leurs activités, mais on sent qu'ils s'enfoncent au fond du Congo, qu'ils restent en veille, qu'ils se regroupent à petits groupes et qu'ils attaquent des villages vraiment éloignés des zones où ils agissaient maintenant. Mais jusque-là, en tout cas, on ne sait pas leurs revendications précises. On sait juste que depuis un moment, ils sont en contact avec l'État islamique, mais c'est vraiment difficile de pouvoir déceler quel est leur objectif final, qu'est-ce qu'ils veulent au juste.
Oui, le dernier rapport des experts de l'ONU pointait des liens financiers entre les ADF et l'État islamique, en Somalie et au Mozambique aussi, mais également des combattants qui seraient envoyés sur place. Qu'est-ce qu'on sait de ces hommes ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, les combattants ADF, c'est des gens qui pratiquent des rites ou des pratiques musulmanes très, très atroces. On sait que, par exemple, un simple vol peut conduire à la décapitation. On sait qu'ils essaient en tout cas d'observer les règles les plus strictes de l'islam. On sait qu'ils renomment tous leurs otages comme étant des musulmans. On sait aussi que le groupe n'est pas aussi rigide que ça sur le plan religieux parce qu'il collabore aussi avec des personnes qui ne sont pas des religions musulmanes. Et cela est peut-être lié au fait qu'il agit dans une zone qui est essentiellement chrétienne, mais aussi lié au fait qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques et géostratégiques dans cette région qui demandent à être plus ou moins flexibles pour y survivre.
Il y a un autre mouvement actif au nord Kivu, c'est l'Alliance Fleuve Congo, dont la rébellion du M23 est les membres. A-t-elle des liens, cette AFC, avec les ADF?
Alors, jusque-là, il n'y a pas de lien documenté entre les deux groupes armés. Mais ce qui est quand même frappant, c'est de voir le fait que chaque fois que l'Alliance Fleuve Congo, qui est attachée au M23, relance ses attaques à Lubero, on sent en fait aussi qu'il y a une intensification de tuerie à Beni, notamment de la part des ADF. Donc, cette action concertée pourrait faire penser qu'il existerait des liens entre les deux groupes armés et que, évidemment, l'objectif, c'est d'agir au même moment afin de disperser les efforts de forces armées congolaises sur les deux fronts et s'y essayer d'avancer plus ou moins. Mais comme je l'ai dit au début, jusque-là, il n'y a vraiment pas d'enquête sérieuse qui puisse déterminer les liens entre les deux groupes armés. C'est juste cette coïncidence opérationnelle qui, pour moi, n'est pas anodine.
Merci, Stewart Mouindo. Cet entretien sera à retrouver sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Direction le Maroc, à présent le Maroc qui s'apprête à réviser son code de la famille. Les premières pistes de réforme ont été dévoilées le 24 décembre. Le travail va encore se poursuivre avant l'adoption d'un nouveau texte devant le Parlement. Alors, parmi les nouvelles propositions, l'une d'elles permettrait aux femmes divorcées et remariées de conserver la garde de leurs enfants. Mathias Reynal est allé à la rencontre d'une famille pour qui cela pourrait tout changer.
Avec ses deux enfants, elle habite un petit appartement en banlieue de Casablanca. Il y a 3 ans, Mariem a décidé de divorcer.
La cause, c'était la violence. Donc, parce que j'étais une femme battue, j'étais une femme maltraitée, j'étais une femme, vous pouvez dire, violée par le mari. Malgré ça, j'ai essayé de garder les choses à l'amiable pour le développement sain des enfants.
Alors qu'elle vient d'épouser un autre homme, sa vie bascule. Son ex-mari décide de se venger en récupérant leur aîné, une fillette de 9 ans, ce que lui permet encore la loi marocaine.
Les enfants, ils étaient battus, un harcèlement psychique, ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais à la maison, je faisais quoi, où je dormais.
La première mouture du nouveau code de la famille, dévoilée il y a une semaine, revient sur cette disposition et accorde aux femmes divorcées, remariées, le droit de garder leurs enfants. Alors Mariem est
très soulagée. Alhamdoulilah, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que moi et toutes les autres mamans qui ont le même cas que moi, on est très chanceuses. Vous imaginez qu'une mère ait dit « je suis chanceuse ». Pourquoi ? Pour un droit qui est fondamental, de rester avec mon enfant.
Rien n'est encore définitif. Le Parlement doit se pencher sur la réforme.
Avant, l'homme, il pouvait refaire sa vie. Tu te maries, tu fais ce que tu veux, tu peux même divorcer 4-5 fois, mais ton ex, elle est toujours soumise à toi. Tu la tiens toujours en soumission. Et ça, c'est pas quelque chose qui était équitable.
Allô, bonjour.
Au bout du fil, Sarah, 9 ans, d'une maturité ahurissante pour son âge, elle est en week-end chez sa grand-mère.
Eh bien, j'ai été satisfaite par la nouvelle. J'étais heureuse.
Dans le salon, il y a aussi Mehdi. Silencieux, depuis le début de l'interview, le nouveau conjoint de Mariem esquisse un sourire quand Sarah explique pourquoi elle veut rester avec lui et sa mère.
Parce que c'est vrai que c'est pas mon papa, c'est pas mon vrai papa, mais je l'aime quand même et c'est comme un papa magique pour moi.
Ça veut dire quoi ça?
C'est un papa gentil, un papa magique.
Dieu merci, je n'ai pas eu de problème d'intégration avec les enfants de ma femme. À la maison, nous vivons comme une famille. Je les considère comme mes enfants, je n'ai aucun souci par rapport à ça.
Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Et c'est à Casablanca que se referme cette édition africaine réalisée et préparée avec Laurent Corot, Mickaël Goncalves et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Dans 2 minutes maintenant, selon votre zone d'écoute, le journal d'Haïti et des Amériques, ou alors 30 minutes d'information en full day. Autre possibilité en langue portugaise. Restez bien à l'écoute de RFI.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Comme chaque semaine, un sujet de santé au féminin est traité de manière pratique. Ce vendredi, les troubles musculo-squelettiques. Ces douleurs se manifestent par des gènes au niveau des articulations lors des mouvements. Une rhumatologue répond aux questions des auditrices.
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Pourquoi RFI parle Fulfulde et Mandinkan, les langues Peul et Mandingue ? Avec la rédaction de Dakar, nous revenons sur l'essor de ce pôle régional installé au Sénégal et sur les spécificités du travail des journalistes de ces rédactions.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 11h10 et 19h40 TU sur RFI.